Le soulagement en Dordogne, le forcené du Lardin-Saint-Lazare, en fuite depuis hier matin, a été interpellé après un nouvel échange de tirs avec le GIGN. L'ancien militaire de 29 ans est grièvement blessé. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Top départ de la vaccination pour tous les adultes. Plus de classe d'âge ni de raison de santé. Dans certains centres, il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous. Une accélération de la campagne qui devrait permettre d'atteindre en avance l'objectif de 30 millions de primo-injections fixé à la mi-juin. L'appel urgent au don du sang. Avec la crise sanitaire, les stocks sont au plus bas, très insuffisants pour répondre aux besoins à l'approche de l'été. Elles sont fermées depuis 14 mois. L'Algérie rouvre ses frontières partiellement demain, mais avec seulement 3 vols par semaine et des tarifs qui s'envolent, la diaspora algérienne est sur les nerfs. Dans ce journal également, des juges français au Liban pour auditionner Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan. Le dernier conseil des ministres franco-allemands pour Angela Merkel. La chancelière va quitter le pouvoir en septembre. Et puis Roland Garros avec Serena Williams en train d'inaugurer la toute première session de nuit de l'histoire du tournoi, sans oublier tous les résultats du jour. La météo, elle va commencer à changer demain dans le sud-ouest avec des orages localement forts. En revanche, la journée sera à nouveau estivale sur la moitié nord avec des températures très agréables, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a débuté la semaine dans le rouge, moins 0,57% à 6447 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, il n'y a pas qu'à Roland Garros que l'on joue au tennis. Les amateurs, eux aussi, ont retrouvé le chemin des cours. Les raquettes ressortent des placards et cela fait les affaires de Babola. Son PDG, Eric Babola, sera tout à l'heure l'invité d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'épilogue donc en Dordogne, après 36 heures de traque, le fugitif qui s'était retranché dans une forêt a été neutralisé à la mi-journée par le GIGN. L'homme était activement recherché après avoir agressé le nouveau petit ami de son ex-compagne dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait dans sa fuite tiré sur un véhicule de la gendarmerie. Gendarme que cet ancien militaire a donc une nouvelle fois visé ce midi avant d'être grièvement blessé, Stéphane Place.
Oui, c'est peu avant 13 heures à Condat-sur-Vézère, alors que le fugitif de 29 ans tentait, semble-t-il, de quitter le périmètre boisé, cerné par les gendarmes, survolé par les hélicoptères, que les hommes du GIGN ont été pris pour cible. Plusieurs détonations ont été entendues par des riverains et quelques minutes plus tard, le général André Pétillot, qui commande la gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine, a annoncé la fin de cette traque.
À partir du moment où il a été au contact des militaires du GIGN, il a ouvert le feu à nouveau, à plusieurs reprises sur eux, et suite à un de ses derniers tirs, il y a eu un tir de riposte qui a amené effectivement à le neutraliser. Il n'y a aucun blessé parmi les gendarmes. Il était toujours dans la logique suicidaire.
Cet après-midi encore, des routes sont restées barrées dans tout le secteur pour permettre aux enquêteurs de travailler, car les investigations judiciaires se poursuivent naturellement. Mais au Lardin-Saint-Lazare, la vie a repris son cours et les habitants sont de nouveau sortis de chez eux.
On est quand même soulagés depuis ce matin de savoir qu'il a été neutralisé. On va pouvoir revivre.
Et là, voilà, hier, j'avais organisé le repas de la fête des mères. Les mamans ne sont pas venues, donc aujourd'hui, je suis venu chercher les fleurs. Ça redescend gentiment. Le stress, les hélicoptères, le stress de ne pas savoir où c'est qu'il se trouvait surtout, c'est vachement dur. Hein.
Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur l'état de santé du forcené blessé par ce tir de riposte.
Stéphane Place, au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, pour Europe 1. C'est l'autre grande actualité du jour. La vaccination contre le Covid est désormais ouverte à tous. Fini les critères d'âge ou ce mot barbare de comorbidité. Tous les adultes peuvent depuis aujourd'hui recevoir une injection. Et pour l'occasion, Emmanuel et Brigitte Macron se sont fait vacciner aujourd'hui. C'est le chef de l'État qui l'a annoncé sur Twitter. Dans certains centres, il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous. Une demi-heure de libre, vous vous présentez et vous ressortez vacciné. Comme vous avez pu le constater, Maximilien Carlier au vaccinodrome de Douai à la salle Gaillon Expo.
Oui, tout à fait. Comme Lucas, 18 ans, casquette vissée sur la tête, carte vitale dans les mains, il attend sa première injection.
On cherche à se vacciner parce qu'on voudrait partir en vacances en juillet. Vu que la deuxième dose, on a un certain délai, on essaie de se vacciner le plus rapidement possible.
Alors il y a des jeunes, des étudiants, mais j'ai surtout vu ici beaucoup de personnes qui travaillent et qui viennent parce qu'elles ont un jour de repos. Et c'est ça justement l'enjeu afin d'accélérer cette vaccination. Salia Grévin, chef du vaccinodrome de Douai.
C'est une adaptation aux actifs qui doivent intercaler la vaccination dans leur quotidien de boulot, d'enfants, de réunions, d'anticiper en se disant je ne peux pas me faire vacciner aujourd'hui parce que demain j'ai une grosse réunion, si je ne suis pas traque, si j'ai 40 de température. la complication va être là.
Conséquence, demain, fermeture, on réaménage le centre pour monter en puissance, on passe de 30 à 40 box avec plus de médecins, d'infirmiers, pourquoi pas organiser même plus de nocturnes.
On s'aperçoit que pour les actifs, les créneaux 18-22 heures, que ce soit avec ou sans rendez-vous, ils fonctionnent super bien.
Et selon cette responsable, le nombre d'injections va quasiment doubler ici en juin, en espérant que les doses suivent et puis qu'il y ait toujours cette adhésion à la vaccination alors que les vacances approchent.
Maximilien Carlier, à Douai pour Europe 1. Victor Delande, notre spécialiste santé, nous a rejoint. L'objectif de cette nouvelle étape dans la vaccination, c'est d'aller encore plus vite et notamment d'atteindre 30 millions de primo-injections d'ici la mi-juin, Victor.
Oui, et ce seuil semble désormais à portée d'aiguille avec plus de 25 millions de personnes qui ont déjà reçu au moins une dose. La France tourne actuellement à 500 000 injections par jour en moyenne. Depuis ce matin et l'ouverture de la vaccination à tous les adultes, quelques 28 millions de Français en plus sont donc éligibles. Ça tombe bien puisque les livraisons de doses sont de plus en plus importantes. Rien que pour le seul mois de juin, 34 millions de doses devraient être livrées à la France. Et selon les projections de Doctolib, la barre des 30 millions de primo-injections pourrait être franchie le 10 juin avec 5 jours d'avance. Donc, pour ne pas baisser la cadence, voire l'augmenter avant l'été, le gouvernement mise beaucoup sur les pharmaciens qui ont reçu les vaccins Moderna depuis samedi dernier. Et à partir de la semaine prochaine, 450 000 doses devraient être livrées à toutes les pharmacies du pays. C'est donc en partie sur eux que repose l'accélération de la campagne dans les prochaines semaines.
Victor Delande. Et pour accélérer encore davantage le rythme des vaccinations, la présidente de la Haute Autorité de Santé propose de systématiser les tests sérologiques avant la première injection. Cela permettrait de voir si la personne a déjà eu le Covid sans le savoir, ce qui lui éviterait une deuxième dose et donc de la réserver pour quelqu'un d'autre. Notez que le Conseil constitutionnel a ce soir donné son feu vert au pass sanitaire, dispositif qui sera indispensable à partir du 9 juin pour accéder aux événements de plus de 1000 personnes. Si la pénurie, c'est de l'histoire ancienne concernant les vaccins, c'est tout l'inverse en revanche en ce qui concerne les stocks de sang. Les Français en donnent beaucoup moins avec la crise sanitaire. Résultat, les réserves sont au plus bas alors que va bientôt débuter la saison estivale. D'où cet appel d'urgence lancé aujourd'hui par l'établissement français du sang.
Aujourd'hui, on est à moins de 85 000 poches en stock, donc c'est un niveau qui est vraiment très faible, qui est insuffisant. C'est le résultat d'une baisse notamment de notre fréquentation avec la période du déconfinement, des beaux jours et puis une session dans les établissements de santé qui ne se dément pas. Le risque que ça représente, c'est de ne plus pouvoir répondre à des demandes spécifiques des établissements de santé et donc de devoir reporter des interventions, ce qu'on ne souhaite absolument pas faire. Alors l'objectif de cet appel, c'est que toutes les personnes qui sont sensibles au du sang et tous les concitoyens qui ont le temps, qui peuvent consacrer une heure, viennent sur nos collectes pour donner leur sang, en sachant que donner son sang, c'est potentiellement sauver 3 vies.
Hervé Menrad, le directeur de la collecte de l'établissement français du sang au micro européen d'Angèle Châtelier. À partir de demain, l'Algérie va partiellement rouvrir ses frontières, fermées depuis 14 mois en raison de la pandémie. Plus d'un an donc que des milliers de personnes attendent de pouvoir rentrer au pays. Mais pour beaucoup d'entre elles, il va falloir encore patienter. Les premiers vols sont littéralement pris d'assaut, d'autant qu'il y en a peu. Seulement 3 rotations par semaine dans un premier temps, 2 Paris-Alger et 1 Marseille-Oran. Résultat, les prix des billets s'envolent, sans compter l'obligation d'acheter un pack sanitaire à 160 euros par personne. Autant d'obstacles qui provoquent la colère de la diaspora algérienne, comme chez vous à Marseille, Stéphane Frangy.
Oui, exemple aujourd'hui avec ce cordon de policiers pour protéger l'agence commerciale d'Air Algérie, prise d'assaut dès le matin. Le seul vol hebdomadaire au départ de Marseille est déjà complet. Résultat, le désespoir laisse vite place à la colère.
Parce que ce matin, c'était la folie. Il y a des gens qui sont endormis là. Les gens aussi, ils n'en peuvent plus. Et ouais, c'est chaud. Mais après, il faut se mettre à la place des gens. Les gens, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Ils ont fermé pendant 1 an et demi, ils mettent un avion. Un avion, c'est pas possible. Donc en gros, on risque de partir dans peut-être 1 mois ou 1 mois et demi. Moi, depuis 7h du matin, je suis là. Ils disent, vous nous avez pris notre pays, vous êtes des voleurs.
Mais même en obtenant le précieux sésame, les billets sont plus chers. Il y a un pack sanitaire à payer qui comprend un test PCR et 5 jours d'isolement sur place à l'hôtel. L'Algérie est donc devenue un rêve inaccessible pour beaucoup.
Franchement, c'est injuste. C'est lui qui a de l'argent, il peut y aller. Lui qui n'a pas d'argent, il n'y va pas. Le Maroc et la Tunisie, c'est 60 euros le billet. Nous, c'est 1000 euros. Même pour aller en Amérique, c'est pas 1000 euros. C'est plus facile d'aller au paradis qu'aller en Algérie.
Voilà, et des appels à manifester samedi prochain devant les représentations diplomatiques algériennes circulent déjà sur les réseaux sociaux.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Renault et son usine de Cléon en Seine-Maritime condamnés à 300 000 euros d'amende pour homicide involontaire. Un technicien avait trouvé la mort en mars 2016 après avoir manipulé une machine pour laquelle il n'avait pas été formé. Au Liban, c'est pour une toute autre affaire que depuis aujourd'hui, Carlos Ghosn est entendu pour la première fois par la justice française depuis sa fuite rocambolesque du Japon en décembre 2019. Les magistrats ont fait le déplacement jusqu'à Beyrouth pour interroger l'ancien patron de Renault Nissan au sujet notamment de l'organisation de deux fêtes au château de Versailles, Aurélien Fleureau.
Oui, Carlos Ghosn s'est présenté ce matin devant la cour de cassation de Beyrouth, entouré de ses avocats, costume sombre, mallette à la main et donc prêt à répondre aux différentes accusations. Il y a effectivement cette enquête menée par un juge d'instruction du tribunal de Nanterre sur les deux soirées organisées à Versailles. Il sera interrogé sur le caractère privé de ces soirées, mais il y a aussi des soupçons sur des dépenses personnelles prises en charge par RNBV, filiale de Renault Nissan installée aux Pays-Bas, ainsi que sur des transactions entre cette filiale et l'entreprise qui distribue les véhicules Renault au Moyen-Orient. Il y aura aussi le volet porté par le pôle financier de Paris. Il s'agit là d'enquêter sur les rémunérations attribuées à deux conseillers de Carlos Ghosn, Rachida Dati et Alain Boer. Là encore, c'est la filiale RNBV qui est dans le viseur, comme elle l'était dans la procédure lancée au Japon en 2018. Les auditions doivent durer jusqu'à la fin de la semaine. Les avocats de Carlos Ghosn espèrent une mise en examen de leurs clients pour accéder au dossier et contre-attaquer. Ils dénoncent des vices juridiques et des anomalies issues de l'enquête japonaise.
Merci Aurélien Fleureau. C'est une affaire qui fait grand bruit dans les plus hautes sphères diplomatiques. 8 ans après l'affaire Snowden, les États-Unis sont à nouveau soupçonnés d'avoir espionné des dirigeants européens de 2012 à 2014. Selon une enquête de la télévision publique danoise, les services de renseignements américains se sont servis du réseau de câbles sous-marins danois pour écouter les conversations de hauts responsables politiques français, suédois, norvégiens et allemands, dont Angela Merkel, la chancelière qui, cet après-midi, a présidé son tout dernier conseil des ministres franco-allemands. Elle aura travaillé avec les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. 4 mandats, 16 années au pouvoir et bientôt un au revoir. Angela Merkel quittera son poste après les élections de septembre. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. C'est en quelque sorte une page qui se tourne.
Oui, même si la chancelière n'est pas du tout à l'aise avec l'exercice, tout le monde le sait bien, elle a entamé en fait une sorte de tournée d'adieu virtuelle dans les prochaines semaines, en présentiel ou en ligne. Eh bien, ce sera son dernier G20, son dernier sommet de l'OTAN, etc. Pendant 16 ans, elle a marqué par son style très particulier la politique internationale et l'Europe. Emmanuel Macron a tenu à souligner l'apport précieux d'Angela Merkel à la relation franco-allemande.
Ce dernier conseil me permet de dire tout ce que la relation franco-allemande doit à ton engagement, ta volonté de faire, parfois ta patience aussi avec nous et ta capacité d'écoute.
Mais ce n'est pas encore l'heure de se dire au revoir. Et d'ailleurs, quand on lui a demandé de tirer le bilan de ce travail en commun, la chancelière a préféré botter en touche.
Nous vivons une époque où chaque jour nous avons à prendre des décisions très importantes. Donc ce dernier conseil des ministres franco-allemand n'est pas du tout la dernière chose que nous aurons à régler, Emmanuel Macron et moi. Nous avons encore du travail devant nous.
Alors elle avoue tout de même beaucoup apprécier la culture du dialogue que Macron et elle ont su développer. Travailler ensemble lui apporte de la joie, dit-elle. Et les dossiers ne manquent pas d'ici son départ d'ici quelques mois. L'avion de combat du futur, la coopération en matière de santé et bien sûr, la relance économique en Europe après le Covid.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Allez, prenons maintenant la direction de la Porte d'Auteuil.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et on retrouve tout de suite Axel May en direct de Roland-Garros où officiellement, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, un match a débuté le soir. La session de nuit inaugurée il y a une heure par une légende. 23 titres du Grand Chelem au compteur. La grande Serena Williams, Axel.
Oui, et à l'instant, Serena Williams vient de remporter au tie-break le premier set 7-6, 8 points à 6 dans le tie-break, face à la Roumaine Irina Camelia Begu. Donc 7-6 pour Williams. Là, elles sont en train de changer de côté, elles sont en train de se rafraîchir parce qu'il fait encore relativement chaud, ou en tout cas bon. Les deux joueuses qui jouent évidemment sans public puisque c'est le huis clos à 21h et cette première night session qui se tient donc dans les gradins, devant des gradins vides.
Les résultats du jour, Axel, avec notamment le retour gagnant et très attendu de Roger Federer.
Oui, Federer, la petite quarantaine, n'a pas traîné un 3-7 face à un Ouzbek pour remporter son premier tour. Il sera donc présent pour un autre match ici, porte d'Auteuil. Roger Federer, du côté des Français, à l'instant même, la défaite de Joe Wilfried Tsonga en 4-7 face à un adversaire japonais. Joe Wilfried Tsonga, dont on s'interroge sur la suite de sa carrière, lui qui connaît des difficultés actuellement. Et puis, pour vous signaler quand même que du côté des bonnes nouvelles, il y avait 9 Français engagés. Il y en a 6 qui ont perdu, donc il y en a 2, il y en a 7 qui ont perdu, 2 qui sont passés. Caroline Garcia est passée face à une Allemande, et puis Harmony Tan, la jeune Française, a battu Alizé Cornet. Et puis je terminerai en vous disant, vous savez, l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Naomi Osaka, la japonaise numéro 2 mondiale, qui a expliqué qu'elle ne voulait plus venir aux conférences de presse. Et bien, sous la pression, elle a décidé de se retirer du tournoi de Roland-Garros. Et il y a quelques instants, Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis, s'est dit à la fois déçu de cette issue malheureuse, tout en espérant revoir prochainement porte d'Auteuil Naomi Osaka.
Merci beaucoup Axel May, en direct de Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi. On termine avec la météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et la météo, c'est avec vous, Anissa Dadi. Le temps va changer demain dans le sud.
Oui, dès demain matin, Julien, en Aquitaine, Midi-Pyrénées, les nuages sont effectivement bien plus nombreux et l'atmosphère sera surtout bien plus lourde avec des orages qui éclatent dès le début de la journée. Dans l'après-midi, ces orages vont avancer direction la Charente. Ces orages seront localement forts avec des averses de grêle et du vent violent dans le sud-ouest. Le vent d'autant se lève également demain avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Dans l'après-midi, les nuages arrivent en Provence et en Auvergne, mais le temps reste sec. Sur la moitié nord, rien à signaler. Hein. C'est toujours du très beau temps. L'été se poursuit au nord de la Loire demain. Les températures, elles restent au-dessus des moyennes de saison avec 8 à 18 degrés demain matin. Nous aurons 8 degrés à Colmar, 11 pour Annecy, 13 à Paris et 15 à Nice, jusqu'à 18 degrés également à Bordeaux. Puis dans l'après-midi, de la chaleur encore avec 22 degrés à Nice et Dunkerque, 24 pour Rodez et Belfort, 25 à Lille, 26 à Marseille et Saint-Étienne, 28 degrés à Lyon, 29 degrés pour Paris et 30 la maximale à Brive-la-Gaillarde.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview écho d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Alors que Wall Street était fermé aujourd'hui pour cause de Memorial Day, jour férié en hommage aux soldats morts au combat, la bourse de Paris a terminé en baisse dans un marché très calme.
-0,57%, oui, le CAC 40, 6447 points. On a un petit peu tourné à vide, le CAC 40 a buté sur la barre des 6500 points. Sur le mois, la hausse est quand même de 2,8% malgré tout. Le marché donc a tourné au ralenti en raison, vous l'avez dit, de l'absence des investisseurs anglo-saxons. Londres aussi a été fermé, c'était Bank Holiday en Angleterre. Quelques grandes valeurs sont retombées, comme Ipsen, -2%, des valeurs qui étaient bien remontées récemment, EDF, -1,5%, les banques aussi, -1%, BNP, -0,5%, la Société Générale, et puis Airbus, qui avait fortement progressé en fin de semaine dernière sur l'annonce de l'accélération de ses cadences de production, repère ce soir 1,2% des prises de bénéfices sur Airbus, 106,66 €. Même remarque pour l'automobile, le secteur était bien remonté, il redonne du terrain ce soir. Renault, -1% avec Valeo. On a aussi Faurecia, l'équipementier, qui perd 2% à 44,23 €.
Exception du jour, le titre Quadient s'est de nouveau distingué en hausse de plus de 6% en clôture.
Oui, le spécialiste du traitement du courrier grimpe de nouveau fortement, plus 6,2% exactement, 25,55 €. Quadient donc qui se distingue, c'est quand même la cinquième séance de hausse consécutive après la révision en hausse des prévisions du groupe. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 11,1%, 246 millions d'euros avec l'aide des nouvelles activités automatisées. Sur les devises, c'est toujours aussi calme avec un euro qui reste très ferme. On est au-dessus des 1,22 ce soir, 1,22,20 face au dollar. Les autres places financières en Europe étaient plutôt à la baisse, mais très calmes, elles aussi, comme le DAX à Francfort, -0,6%, Bruxelles, -0,6% aussi, Madrid, -0,8%, Amsterdam a perdu 0,5%. Et donc, le CAC 40 termine en baisse ce soir de 0,57%, 6 447 points.
Merci beaucoup Didier Hamou de Boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Eric Babola.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du groupe Babola, numéro 1 mondial du tennis. On connaît vos raquettes, on connaît vos cordages. Pour ceux qui aiment le tennis, ils connaissent aussi sûrement maintenant vos chaussures de tennis. Est-ce que vous allez gagner Roland-Garros encore cette année ?
Bah écoutez, j'espère en tout cas pour les amoureux du tennis qui ont été frustrés dans cette période où ils ne pouvaient pas forcément aller dans les clubs, pas forcément jouer. Ils sont tous de retour sur les terrains et d'avoir un grand tournoi comme Roland-Garros avec du soleil et des champions, ça ne peut que faire du bien au tennis. Et on espère qu'un de nos champions va briller.
C'est parce que vous êtes l'équipementier de Raphaël Nadal.
Bien sûr.
Notamment,
Raphaël Nadal et plein de jeunes qui viennent aussi. On a eu la tristesse d'avoir Dominic Thiem qui a perdu...
le numéro 4 mondial qui est sorti dès hier.
Et on en a plein d'autres. On a Muguruza, on a un jeune qui s'appelle Alcaraz, espagnol. On a un jeune français, Cazou. Donc les générations d'après sont là, prêtes à prendre la place que Nadal et ses acolytes ne laissent pas forcément. Mais je pense qu'il est là pour durer encore.
Comment vous les trouvez justement, ces futurs champions ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites « Allez, Babola, va t'aider, va te donner des moyens financiers, va te donner des moyens techniques pour... »
Alors, c'est d'abord des moyens techniques et ça se passe dans la vie de tous les jours dans les clubs. En fait, où on est, Babola est présent dans 15 000 clubs sur la planète, dans 150 pays. Avec les joueurs du quotidien dans lesquels il y a des jeunes qui ont envie de s'investir dans le sport, qui sont meilleurs que les autres. Et localement, on les équipe, on facilite le fait qu'ils aient une raquette sur deux qu'on leur offre. Et puis certains, comme Nadal, qui a fait ça à 9 ans, deviennent un jour champion du monde. C'est le rêve de beaucoup de jeunes, garçons et filles. Et c'est la présence de la marque sur le terrain, comme on était en Espagne dans le club de Nadal quand il était jeune. On fait ça tous les jours et c'est comme ça qu'on détecte nos futurs champions.
Qu'est-ce que ça représente, Roland-Garros, pour vous ? Ça lance la saison de tennis. Derrière, les ventes vont exploser parce qu'on va tous se dire « Tiens, allez, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer ».
Oui, en plus... Nos clients chez Babola, c'est les amoureux du tennis qui jouent toute l'année dans les clubs, qui font des tournois, qui s'entraînent, donc qui sont sur le tennis. En fait, au printemps, les beaux jours reviennent, et là, en plus de ces gens qui sont toute l'année dans les clubs, il y a ceux qui aiment le sport parce qu'il fait beau, qui s'y remettent, et Roland-Garros, c'est le début de l'été, c'est le début de la saison, et les gens ressortent les raquettes des placards, et ont vu un truc extraordinaire, en fait, depuis un an en tennis. Il y a un boom du tennis qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, puisqu'en plus des fans qui étaient un peu frustrés et qui reviennent, il y a plein de gens qui ressortent les raquettes du placard. Il y a un terrain à côté de chez eux, ils s'y mettent.
Vous avez des données pour ça ? Parce que le tennis avait connu quand même un gros creux.
Alors j'ai du mal à avoir des données très précises
Mais par exemple, dans vos ventes, vous le voyez ?
On le voit. Aux États-Unis, j'ai des chiffres plus précis. Il y a eu 4 millions de joueurs de tennis en plus l'année dernière. C'est monstrueux. J'en parlais hier avec des clients magasins de sport. Ils disent, mais on revoit des raquettes qu'on n'avait pas vues depuis 15 ans. Les gens les sortent du placard, les font recorder, changer le grip aussi qui est un peu fatigué. Ils s'y remettent. Donc, les données factuelles, on les a pas, mais on voit que ça prend, les gens cordent, nos clients.
Mais on est d'accord que la meilleure publicité du monde possible pour vous, c'est ce tournoi de Roland-Garros, qui plus est sous le soleil.
Exactement. Roland-Garros, au soleil, des champions, un peu de public, ça donne envie aux jeunes et aux moins jeunes d'aller eux-mêmes faire ça sur le terrain.
Comment vous continuez à innover du côté de Babola? Je le disais, vous êtes numéro un mondial du tennis. Vous êtes, vous, la 5e génération, petite entreprise familiale, à côté de Lyon. Pas grand monde, peut-être, aurait parié au tout début sur le fait que vous seriez un jour numéro un mondial. Quelles sont les innovations pour demain ?
Chez Babola, c'est vrai que ça fait 150 ans qu'on est passionné de tennis. C'est mon arrière-grand-père qui a inventé le cordage pour raquettes de tennis en 1875. Donc on est content de voir que de plus en plus de monde sont passionnés de ce sport. Nous, notre cœur de métier, c'est l'équipement des joueurs, des amoureux, avec ce qu'on appelle la balistique. On est dans un sport où il faut envoyer un projectile de l'autre côté du terrain. Donc c'est ce qu'il y a au bout du bras et ce qu'il y a au pied qui fait qu'on a de la puissance, qu'on contrôle. Et donc on innove en observant les champions, en observant les joueurs sur les terrains. On a signé un partenariat avec le Club Med pour observer les joueurs qui s'y remettent quand ils sont en loisir. On travaille aussi avec un laboratoire à Aix-en-Provence pour l'observation du tennis de haut niveau. Et c'est comme ça que ça nous donne des idées pour avoir des raquettes, des cordages plus confortables, plus puissants, pour courir plus vite sur la balle.
Par exemple, vous aviez lancé il y a quelques années une raquette connectée. Au début, c'était un petit peu anecdotique. Est-ce que c'est l'avenir aussi dans votre sport ?
Le connecté, alors, les produits connectés, aujourd'hui, on les a arrêtés, mais le digital ou l'expérience augmentée, comme on dit, du sport par le digital est une super opportunité pour s'améliorer, pour avoir des données. Parce que finalement, en tennis, on a très peu de données. On connaît son classement, le score. Mais parfois, on gagne alors qu'on n'a pas bien joué. Et parfois, on a bien joué, on n'a pas gagné et on ne sait pas bien. Alors, je parle des joueurs de club. Ici, à Roland-Garros, il y a des statistiques qui permettent d'analyser tout ça. Mais le joueur passionné, il a envie aussi de progresser. Il a envie de gagner. Il veut chercher les petites choses. Donc, le connecté va permettre ça. Permet aussi d'interagir avec les autres, de partager avec des copains, de trouver des joueurs. Il y a plein d'applications aujourd'hui pour trouver des terrains, pour trouver des gens à qui jouer, qui facilitent l'accès à ce sport qui, parfois, pour les non-initiés, n'est pas évident.
Vous êtes confiant, du coup, quand on vous entend là, pour l'avenir du tennis. J'ai l'impression vraiment d'entendre dans votre voix une sorte de rebond un peu inespéré.
Oui, bah nous, on est content parce que finalement, et on ne l'avait pas du tout vu venir, franchement, cette opportunité du Covid qui fait que le tennis, qui est un sport à distance, sur beaucoup d'espace, a un regain d'intérêt de plein de gens qui disent « mais en fait, ce sport est sympa, ce sport est ludique, hein, parce que c'est autant de physique que de psychologique ». Et il y a un nouveau goût du tennis dont on est très content, nous, comme acteurs de ce sport. Même si on le voit sur des sports cousins, le paddle, par exemple, qui monte, qui avait cet élan-là. Et les gens se disent qu'il faut être, pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Et les sports de raquettes sont sympas.
Le paddle, le squash, mais aussi le badminton, puisque c'est l'autre gros développement du côté de chez Babola. Vous ambitionnez, là aussi, de faire partie des tout premiers mondiaux.
Oui, c'est vrai. Alors, le badminton, lui, il va pas bien avec le Covid, parce que c'est un sport en salle. Et pour l'instant, c'est pas possible, hormis pour quelques jeunes ou des professionnels. Donc, il est à l'arrêt, malheureusement. Mais ce sport.
Mais vous fondez beaucoup d'espoir, hein.
Oui, il marche très bien en France avec les scolaires, les enfants qui découvrent le badminton à l'école adorent ça. C'est facile, ça coûte pas très cher, on s'amuse facilement.
On croit que c'est facile parce que c'est un sport beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait
croire. Voilà. Effectivement, le haut niveau, je pense que c'est le sport de raquette le plus difficile. Des volants qui vont à 350 km/h, il faut sauter dans tous les sens. C'est très très exigeant, il n'y a pas de temps mort. Contrairement au tennis où parfois ça s'arrête, le badminton c'est de l'intensité et de la légèreté. C'est un sport d'avenir, je crois.
C'est un sport d'avenir. Dernier mot sur cette enceinte de Roland-Garros où nous avons la chance d'être avec vous, Eric Babola. Ça y est, pour la première fois, il y a des matchs le soir à 21h, une séance de nuit. Ça y est, il y a enfin un toit depuis déjà le dernier Roland-Garros. À un moment, on avait cru que cette enceinte de Roland-Garros serait déclassée, que peut-être qu'un jour, ce serait plus un tournoi du Grand Chelem. Vous êtes rassuré, la France est revenue dans la compétition mondiale.
Oui, alors moi, j'ai jamais vraiment été inquiet sur le fait que Roland-Garros disparaisse. C'est vrai,
ouais,
c'était important
que Madrid, peut-être, aurait pu
c'est important
titre.
De montrer des choses. Ça a été un peu frustrant. J'ai fait partie des quelques uns qui ont eu la chance de venir à l'automne dernier à Roland-Garros. C'était triste, ce nouveau stade avec le toit. C'est bien de voir cette année du public, c'est bien de voir les sessions.
Avec des jauges encore, hein, 5000 et quelques là aujourd'hui, voilà, puis on terminera à 14 000.
Et on peut voir cette enceinte qui est magnifique et qui montre. Moi, j'aime bien une expression qu'on a chez Babola, qui est tradition d'innovation. On peut être ancré dans la tradition, mais pour aller devant, c'est des racines et des ailes, d'autres le disent comme ça. Et c'était important à mes yeux qu'un tournoi comme Roland-Garros, une marque comme Roland-Garros, qui signifie à tous les amoureux de tennis sur la planète. La terre battue, la bataille, c'est les arènes ici. Et ça, c'est super que ça soit monté d'un niveau encore.
Eh bien, on espère qu'on aura les plus beaux matchs possibles pendant cette quinzaine. Un grand merci, Eric Babola, d'être passé par les studios d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes à la tête de Babola, Europe 1 Radio officielle de ce tournoi de Roland-Garros. Et nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous serez encore en direct de Roland-Garros avec votre invité, Christophe Plonvez, le directeur général du loueur de voitures Ada. . 22h29 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les Échos. L'Europe lance ses grands emprunts, titre le quotidien économique. La Commission européenne va en effet réunir demain les banques pour préparer la première émission de dette commune. 10 milliards d'euros prévus en juin, mais au total ce seront plus de 100 milliards qui seront injectés dans l'économie française cette année. Les Échos reviennent également sur notre déficit public qui s'envole. Il représentera en 2021 9,4% de notre produit intérieur brut. Jamais depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France n'a été aussi lourdement déficitaire, ajoute dans l'Opinion Nicolas Bétou. L'Opinion dans la Une est consacrée au problème Guillaume Pelletier chez les Républicains. Le numéro 2 du parti a déclenché une vive polémique interne après s'être prononcé hier en faveur d'une justice exceptionnelle afin de condamner sans appel possible les individus radicalisés sur la base de soupçons avérés. Le député du Loir-et-Cher a également dit porter les mêmes convictions que Robert Ménard, le maire de Béziers, qui soutiendra Marine Le Pen en 2022. On assiste chez les LR à une évaporation des idées et des convictions, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. Certains vont vers le centre-droit d'Emmanuel Macron, d'autres vers la droite de la droite du RN. Pas sûr que les électeurs LR comprennent ce grand écart, conclut l'éditorialiste. Et pendant ce temps-là, pendant que les Républicains sont en train d'imploser, Emmanuel Macron fait le pari de la campagne permanente. C'est le titre à la une du Figaro. Le chef de l'État se lance cette semaine dans un tour de France pour prendre le pouls du pays à moins d'un an de la présidentielle. Après la grande marche de 2016, l'itinérance mémorielle de 2018 et le grand débat de 2019, le président va à partir de mercredi dans le Lot reprendre son bâton de pèlerin. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement, et on se retrouve pour votre flash d'ici une petite demi-heure.
A tout de suite.
A tout de suite Julien.